d'une politique qui se voudrait néo-fasciste dans la région et souligner aussi la force politique de plus en plus significative que prend la social-démocratie d'une part et d'autre part la démocratie chrétienne. C'est dans cette perspective qu'il faut suivre avec attention l'expérience menée en République dominicaine par le PRD et à la Jamaïque par le parti de Michael Manley. Des magazines. Interactualité magazine, actualité, perspective et fantaisie chaque dimanche. Radio Haïti. Bonsoir. La Jamaïque, terre caraïbe de violence. La Jamaïque, terre caraïbe de démocratie. Nous avons eu cette semaine, au cours de nos journaux d'hier et d'avant-hier, quelques points de vue sur la Caraïbe, ses perspectives et son évolution. Qu'en est-il, en 1980, du profil politique de l'archipel antillais, tant du point de vue des rapports des différentes îles qui composent cet archipel, avec les superpuissances, avec les puissances impériales, que du point de vue de ses choix idéologiques, en fonction de la ligne suivie, en vue d'un développement économique, social, culturel. À cette question, il faut apporter une réponse nuancée pour nous permettre d'établir les lignes de force le long desquelles se situeront nos éléments d'analyse et peut-être demain de synthèse. D'un côté, en effet, il y a, cette année, le groupe castriste, sandiniste, avec Cuba, la Grenade, le Nicaragua, face aux géants nord-américains. C'est la rébellion ouverte et le discours idéologique radical supportant une expérience de développement carrément socialiste à Cuba, encore mitigé au Nicaragua, hésitant parce que balbutiant à la Grenade. À l'opposé, l'on trouve toutes les autres anciennes possessions anglaises des îles sous le vent, qui sont carrément pro-américaines, adoptant le style capitaliste sans réserve de développement économique. Les chefs de file de ce groupe sont aujourd'hui la Barbade, Trinidad-Tobago, derrière lesquels se rangent la Dominique, Saint-Kitts, Nevis, Anguilla, etc. L'Angleterre y a laissé des structures politiques inspirées de son système de parlementarisme bipartisan, avec une majorité conservatrice en général au pouvoir et une minorité travailliste en général dans l'opposition. La tutelle politique directe de la Grande-Bretagne a laissé la place à une présence tangible, très tangible des États-Unis, dont la représentation diplomatique dans la Caraïbe Sud tente de se profiler sur des lignes de force démocratiques à mi-chemin, mais réel mi-chemin, entre les tentations castristes et les tentations fascistes créoles. Cette attitude démocratique n'est pas le monopole de la Caraïbe anglophone. On la retrouve au Costa Rica, dont les structures modérées d'orientation capitaliste permettent une circulation d'un discours aussi bien conservateur, traditionnel, pro-américain, que d'un langage nationaliste latino-américain. Et nous savons que le Costa Rica a donné un appui mitigé, mais de plus en plus ouvert, aux guérillas antidictatoriales de la zone, comme ce fut le cas du sandinisme nicaraguayen. C'est qu'entre les deux blocs, représentés dans le sous-continent caraïbéen, l'un castriste, l'autre pro-yankee, se profile une troisième voie politique qui prend de plus en plus de l'importance comme solution à la crise latente ou violente que connaît la région depuis quelque temps. Devant l'incertitude créée en effet dans la zone par l'existence de foyers troublés comme le Salvador, le Guatemala, devant la montée d'un nationalisme caribéen face aux séquelles de la colonisation, à Porto Rico, à la Martinique, en Guadeloupe, guetté comme on l'imagine par la vigie Castro, devant les possibilités d'un réveil anti-impérialiste radical de certains peuples de la région encore sous la botte d'un fascisme sous-développé et sous-développant, il s'est constitué depuis quelques années un courant original d'inspiration idéologique s'appuyant sur le socialisme démocratique, ouvrant une voie nationale de développement avec intervention contrôlée de l'investissement capitaliste, réforme de structure, articulation polyclassiste des groupes sociaux impliqués, faisant face à des oligarchies locales, monopolistes et archaïques. Le tout reposant sur une recherche pragmatique de l'indépendance nationale sur le plan économique. La vraie indépendance. Ce courant politique social-démocrate s'appuie géographiquement d'un côté sur le Mexique au nord et le Venezuela au sud. Ouvert à l'alternance démocratique à l'intérieur d'un système de partis unique, comme avec le Parti révolutionnaire institutionnel mexicain, ou carrément alternance démocratique périodique au niveau national, comme au Venezuela, lequel a donné récemment le choix au peuple entre la social-démocratie de Carlos Andrés Pérez ou la démocratie chrétienne de Herrera Campins, actuellement au pouvoir. Ce courant caraïbéen social-démocrate englobe le Costa Rica, la République dominicaine, la Guyana avec quelques variantes, Saint-Vincent et la Jamaïque. Nous avons vu il y a 2 ans comment le Parti révolutionnaire dominicain, à côté à Santo Domingo, a gagné la lutte électorale menée contre le parti de l'oligarchie de Joaquín Balaguer, le parti réformiste. Et nous avons suivi ici à ce micro l'action bouillonnante du leader Peña Gómez, secrétaire général de l'Internationale socialiste pour l'Amérique latine, qui a tenté de donner à ce mouvement une vitalité continentale avec l'appui de leaders sociaux-démocrates d'Europe, Willy Brandt, François Mitterrand, Olof Palme entre autres, et de leaders américains comme Andrew Young. Il est temps aujourd'hui, et peut-être très opportun, étant donné le contexte, de jeter de même un regard sur l'autre voisine, l'île de la Jamaïque, que nous connaissons si peu en Haïti. Si peu qu'à peine avons-nous mentionné que s'y est déroulée depuis 8 ans une expérience politique originale de tentative d'indépendance économique sur la base d'un nationalisme intelligent dans le cadre d'un système parlementaire à l'anglaise, lui aussi hérité d'une culture westminsterienne, comme les îles du sud des Antilles. À peine avons-nous hélas mentionné en 8 ans quelquefois cette expérience qui risque cependant de connaître une fin inquiétante dans quelques mois lors des prochaines élections générales qui verront s'affronter le leader de l'opposition Edward Seaga, porte-parole des classes dirigeantes de la Jamaïque, chef du Jamaica Labour Party, le JLP, d'un côté, et de l'autre l'actuel Premier ministre, élu en 1972 à la tête d'une coalition populaire et de classe moyenne, de fermiers, regroupé au sein du PNP, le People National Party, M. Michael Manley. Nous évoquerons donc ces 8 dernières années de tentatives de nationalisme de gauche au moment où la tentative semble avortée. C'est que pour nous, soumises à la dictature des agences de presse occidentales, qui sont elles-mêmes reflets du souci post-colonial de diviser les îles pour mieux faire régner l'ordre impérial occidental. Pour nous donc, la Jamaïque, c'était un pays pour touristes riches, le pays du reggae, de la violence des Rastafarians, folklore entourant des plages concurrentes des nôtres. Les Jamaïcains répondent aujourd'hui sur tous leurs dépliants touristiques, dans d'immenses placards publicitaires qui paraissent dans le New York Times ou le Miami Herald, sur les murs de Kingston ou de Montego Bay, le long des avenues et des routes macadamisées qui sillonnent villes et campagnes du pays. Les Jamaïcains répondent aujourd'hui « We are more than a beach, we are a country ». Plus qu'une simple plage, nous sommes aujourd'hui un pays. Et pour nous, Haïtiens, la Jamaïque, c'est un pays qui, malgré d'énormes différences, est tellement proche du nôtre. Quand on circule dans les rues de Kingston, quand on se balade entre Ocho Rios et Montego Bay, qu'on s'arrête le long du chemin pour jeter un coup d'œil sur le paysage, extraordinaire paysage, qui nous fait rêver, nous, les fils de Saint-Domingue, nous, les fils d'Haïti, tellement érodés, cette terre brûlée par le soleil, cette terre dévastée par ses propres enfants, et que nous admirons ces montagnes chevelues, ces montagnes vertes, ces montagnes riches, ces montagnes humides, ces montagnes où l'arbre est roi. Eh bien, au pied des arbres, il y a un petit garçon qui nous regarde goguenard, avec un bout de canson et un bout de chemise. Il nous adresse la parole dans ce broken English, qui est tellement bizarre à nos oreilles. À nos oreilles, et si on prête l'oreille, la musique de cette langue est si proche de la musique de notre créole. Leur manière, leur façon de porter le corps en avant, les femmes qui se déhanchent et qui nous regardent avec un œil en velours et en coulisses, tout cela est très haïtien. Sans compter le beat de la musique, sans compter leur ferveur quand ils dansent, sans compter tout ce que leur cuisine, leur chanson, leur art, aussi on en parlera bientôt, sans compter tout cela, qui, malgré le canal de la Jamaïque, fait de ces deux îles un seul et même peuple. Alors, il est temps d'apprendre à découvrir cette Jamaïque dans une Caraïbe qui est nôtre. La Jamaïque, c'est d'abord un pays profondément démocratique. Profondément, je dis. Bien que l'indépendance ne soit arrivée que le 6 août 1962, soit 18 ans. 18 ans seulement. Eh bien, oui, indépendance de la couronne britannique, après avoir été une colonie pendant 305 ans, 1665. Première date d'implantation des colons anglais en Jamaïque. 1962, l'indépendance est proclamée. Eh bien, en 18 ans de vie de peuple libre, la tradition démocratique inculquée par la culture anglaise reste forte et vivace. Un premier ministre, chef de gouvernement, élu librement tous les 4 ou 5 ans par le peuple, lequel choisit alors entre le parti majoritaire, qui le gouvernera, et le parti minoritaire d'opposition qui contestera les politiques du gouvernement au Parlement ou dans le pays tout entier. Système bipartisan analogue au système américain, direz-vous. Mais disons de préférence au système anglais, car le chef de l'État, c'est toujours la reine, dont un gouverneur général nommé par elle tient lieu de représentant. Mais il n'a comme elle que des pouvoirs insignifiants. Juste inaugurer les chrysanthèmes. Jusqu'à présent, ce système, mis en place il y a 18 ans, fonctionne et semblait bien fonctionner. Le sens de la liberté citoyenne s'enracine dans des organisations professionnelles, syndicats, coopératives, associations de producteurs, associations d'éleveurs, associations d'exportateurs, une presse libre, comme on ne saurait l'imaginer de ce côté-ci du canal, fonctionne chaque jour. Et l'opposition dispose d'organes au Parlement, dans l'opinion publique, sur les murs des villes, nous en parlerons, organes qui permettent une libre circulation des idées et un débat général au niveau national, atteignant toutes les couches de la population. Quand je dis toutes les couches de la population, je reviens à cette promenade, le long de ces rivières glacées, profondes et bleues, une rivière bleue sous le soleil des Antilles. À nous, habitués aux rivières boueuses, aux rivières érodantes, quelle divine surprise, quelle exquise sensation pour un Haïtien de pouvoir tremper le bout des pieds, car l'eau est glacée, le bout des pieds dans cette eau bleue profonde, qui coule paresseusement dans le fouque de deux mornes. Eh bien, on s'arrête le long de ces rivières bleues pour, par exemple, s'acheter des cigarettes, qui ces jours-ci sont très rares en Jamaïque, ou pour simplement prendre le Daily Gleaner, car au fin fond des campagnes jamaïcaines, le Daily Gleaner, le quotidien d'opposition de Kingston, circule. 80 000 exemplaires. 80 000 exemplaires du Gleaner circulent chaque jour dans un petit pays qui n'a pas 3 millions d'habitants. Oui, le taux d'alphabétisation est très élevé. Eh bien, arrêtons-nous donc dans un de ces stands le long de la route où l'on vend le Gleaner. Il y a là un fermier avec sa pipe. La femme se balade dans les champs, en quête peut-être de quelques dion-dion. Et puis il y a les gosses qui batifolent. Et il y a les copains, il y a les amis. Ils discutent. De quoi? Eh bien, de la dernière prise de position du Premier ministre, de la réaction du chef de l'opposition, du prix du sucre, qui est très élevé, de la gasoline, qui monte en flèche, du riz, qui n'existe pas, de cette agression dans les supermarchés. Ils discutent avec des pour et des contre sur la situation dans leur pays, sur l'évolution démocratique de leur pays, sur les élections prochaines. Ils sont pour, ils sont contre. Voilà comment le petit fermier jamaïcain, rencontré au détour d'un chemin, prend position sur les problèmes de son pays. Quelques-uns plus savés peuvent glisser dans la conversation. Avez-vous entendu parler de la déclaration de Maurice Bishop, le premier ministre de Grenada? Ou bien ils peuvent aussi évoquer peut-être l'affaire des otages de Téhéran. Voilà comment fonctionne cette démocratie, par une sorte de circulation des connaissances et de l'information. Mais voilà que tout ce bel échafaudage risque de bientôt s'effondrer. La violence est de plus en plus un élément intervenant dans la vie politique jamaïcaine. Le Premier ministre, Michael Manley, a essuyé en moins d'un mois plus de 3 attentats, 3 fusillades. Parallèlement, le quartier général du parti d'opposition, le GLP, a été l'objet d'un attentat à la bombe, laquelle n'a pas explosé, je vous le dis tout de suite. Partisans et adversaires du gouvernement s'affrontent dans certaines circonscriptions électorales. Déjà, on en parle. Sur le plan économique, les consommateurs réagissent parfois avec force à la pénurie de certains produits de base. Ils envahissent les supermarchés, ils cassent les vitrines, ils s'emparent de force des marchandises, ils molestent les commerçants. Cela paraît dans les journaux. Les associations de producteurs et de supermarchés protestent et demandent l'application de la loi. La violence monte. Vu de l'extérieur, la situation jamaïcaine de ce gouvernement de gauche, de centre-gauche, disons plutôt, mais soutenu par l'extrême-gauche, ayant ou ayant eu un large appui populaire, entretenant des rapports amicaux avec Cuba et une représentation diplomatique imposante de Cubains à Kingston, cette situation troublante rappelle un peu, un tout petit peu, l'entreprise de déstabilisation contre Salvador Allende au Chili. Et figurez-vous que je me suis posé la question avec beaucoup d'Haïtiens, et aussi beaucoup de Dominicains, beaucoup de Portoricains, qui, de plus en plus dans la Caraïbe, regardent vers la Jamaïque pour essayer de comprendre d'abord ce qui s'y passe, et puis de juger. Et je me suis dit qu'il fallait bien y aller, pour poser des questions aux Jamaïcains eux-mêmes, pour voir comment les choses se passaient, pour savoir comment les choses pourraient se passer. Peut-être que dans quelques mois, les élections mettront au pouvoir une autre équipe. Alors, on se demande si cette démocratie jamaïcaine va continuer à fonctionner ou si les opposants vont finir par sortir leur couteau. La question de cette déstabilisation dont on parle beaucoup pour des raisons précises, l'histoire du Fonds monétaire international par exemple, dont, sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure, eh bien cette question de la déstabilisation, je l'ai posée personnellement au Premier ministre jamaïcain, M. Michael Manley. M. Michael Manley, Premier ministre jamaïcain, leader du Parti National Populaire, au pouvoir depuis 8 ans, qui a tenté cette expérience dont je vous parle de nationalisme économique et de démocratie dans une sorte de socialisme, c'est un homme très simple. Je vous en parlerai après l'avoir entendu tout à l'heure. Mais écoutons-le faire le point de sa propre position face à ce que l'on pourrait appeler une entreprise de déstabilisation à la manière chilienne. Dites-vous bien que cette déclaration a été faite 2 jours après que le Premier ministre Michael Manley eut essuyé l'une des fusillades que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors, dans son bureau, un matin, ensoleillé, un homme en pantalon et sweatshirt, manches courtes, très décontracté, répond à l'une de mes nombreuses questions sur la déstabilisation de son gouvernement.
We in the Caribbean perceive the same atmosphere as was perceived when Allende was losing his grip on the power. Do you perceive that, Mr. Prime Minister?
Well, obviously there are bound to be certain similarities because Allende also tried to buck the system, tried to fight the system and tried to break his country free. And there are similarities, and we have been under tremendous pressure, which really started in late 1975, was in a crescendo into 76, abated somewhat in 77 and 78, and then is returning to a crescendo through 79 and now. And we have been under tremendous pressure, and there have been real destabilization efforts made, originally externally, now perhaps more of local origin at the present time, but by now local people have learnt the techniques. So they're able to do their own thing now. But there is this difference that I think that we have always had a stronger natural political power base than Allende had. Our People's National Party is a party of tremendous resilience and greater organizational depth. So that I don't think that we are as easy to topple as other people might be, because we have a powerful mass base that people don't dare trespass with.
Le Premier ministre jamaïcain reconnaît les similitudes entre la situation de déstabilisation qui a mis fin au régime d'Allende et celle qu'il connaît depuis quelques années. Il reconnaît qu'en 75-76, il y avait d'étranges similitudes entre cette entreprise de stabilisation qui tentait de le jeter hors du pouvoir. Lui, Premier ministre d'un gouvernement démocratique menant une politique de gauche, comme je l'ai dit. En 75-76, il souligne que cette entreprise de déstabilisation était d'origine extérieure. Vous voyez de quoi il veut parler. Tandis qu'en ce moment, les pressions sont sur le plan local. Et avec beaucoup d'humour, un humour très anglais, il dit, il semble que les gens d'ici, de l'intérieur, les Jamaïcains, qui tentent de le déstabiliser, aient appris entre-temps les techniques de déstabilisation. Il reconnaît les pressions énormes qui sont exercées sur son gouvernement depuis quelques années. Mais, vous voyez comment le sens politique émerge dans son discours, dans sa réponse, c'est qu'il précise ainsi, en passant d'une saison, d'une période à l'autre, que les pressions extérieures sont moindres que les pressions intérieures. Il semble bénéficier ainsi d'un appui assez discret du grand voisin du Nord. Mais ceci est une déduction. En venant à tous les dangers qui le menacent et aux possibilités pour lui d'être chassé du pouvoir, le Premier ministre Manley est formel. La différence entre Allende et lui, c'est que son parti dispose d'un très fort, très puissant soutien populaire. Une base populaire puissante qui donne à ce parti l'assurance et la fermeté de pouvoir surmonter les difficultés et de vaincre les obstacles. Telles sont les positions de M. Michael Manley, Premier ministre de la Jamaïque, face à cette situation de déstabilisation de son régime. Le People National Party du Premier ministre Michael Manley dispose depuis 40 ans de ce fort enracinement populaire qui fait sa puissance et qui donne cette assurance au Premier ministre. Mais il y a quand même le phénomène violent, l'extension de la violence dans la société jamaïcaine. Et le Premier ministre le sait bien, qui, 3 jours auparavant, avait essuyé les coups de feu de certains de ses adversaires.
You don't fear the violence that you just test last Sunday.
You mean do I personally fear it? No.
Personal or for all the US?
No, it doesn't affect me personally one way or the other. I never worry about that sort of thing. As an old trade unionist who has had to fight it out on the picket line all my life, I have no personal problem. I regret for Jamaica, I'm sorry for Jamaica's sake, that we are dealing with people who are so ruthless in their desire to try to get to power that they will use any technique, including violence, to try to upset the country and destabilize the atmosphere. This is very sad. One feels deeply concerned about the people who live in the poor areas of Kingston and who often have to live in fear because of the gangs that are paid to terrorize them. One is sorry that that then breeds the necessity for counteraction. Because inevitably, if one side, you know, if the opposition starts to rough up government supporters, they eventually get mad and start to retaliate. And this is, you know, this is just tragic. It's a tragic aspect of our kind of political system. And it's very bad for the country.
But you don't think it can involve a sort of clash, big clash in the country? Social, let's say?
No, it never has before. It did. This, you know, this aspect of Jamaican politics first began to surface in 1947, in my father's time, and in Bustamante's time. And it has been sort of on and off a sporadic problem in Jamaican politics throughout our history. So it is nothing new. It's just that it is taking a rather unpleasant form and rather intense form at the moment. I myself do not think it is going to lead to a general confrontation. I think it is a marginal problem of the political system, which is regrettable, and which I hope one day we will learn to do without.
So, nobody outside Jamaica can understand the easiness and the freeness and the freedom of your taking an helicopter and going through places with 3 or 4 or 5 people, no more, without any security and any... that is very important. And sometimes, I'm afraid, sometimes democratic people throughout the Caribbean said, is Manley not aware of this danger under his own person or his militant?
Well, it's just that, you know, I am a great believer that I believe that you partly attract danger by believing it is there. I think if you are calm about these things and just live your own life and... Like I'm about to go to the country now, and I think there's one person going with me, and one political aide and one security person. I don't even ask the security person to come. He insists on coming along.
À propos de cette violence, donc, le Premier ministre Manley est formel. Cela ne m'affecte pas. J'ai une vieille habitude de syndicaliste, de militant syndicaliste, car il faut le dire, le Premier ministre a commencé ses armes dans la vie publique comme militant syndicaliste. Il a fait des syndicats, il a animé des associations ouvrières, il s'est battu dans les piquets de grève.